projection privée. Bonjour, cette émission est consacrée à Miloš Forman qui a une rétrospective intégrale au Festival d'Angers. Festival d'Angers qui a commencé hier soir, qui en est à sa 28e édition, qui s'appelle Premier Plan, puisqu'il est consacré aux débutants, aux premiers films. Une centaine de premiers films vont être projetés pendant une semaine, jusqu'au 31 janvier. Le Festival d'Angers a découvert Christian Petzold, Arnaud Desplechin, Abdelatif Kechiche, François Ozon, Paolo Sorrentino et bien d'autres. Donc c'est un festival vraiment, vraiment de découverte, mais aussi qui se penche sur le passé et le présent, puisqu'il y a des rétrospectives outre Miloš Forman de Alain Cavalier en sa présence, de Michael Lansdale et de Andrei Sviagintsev, le grand cinéaste russe, qui seront tous présents. Il y aura aussi une rétrospective du cinéma islandais et je recommande particulièrement les films d'animation de Paul Driessen, un Hollandais volant particulièrement talentueux. Mais pour parler de Miloš Forman, j'ai invité trois grands amateurs de son cinéma et en particulier Jean-Claude Carrière, qui n'est pas seulement amateur de son cinéma, mais qui est un collaborateur de Miloš Forman, qui a écrit avec lui trois films, Taking Off, Valmont et ce film magnifique et méconnu qui est Les Fantômes de Goya, d'ailleurs qui a été réalisé il y a 10 ans et depuis nous n'avons plus malheureusement de nouveaux films de Miloš Forman, qui est à New York mais qui n'a pas pu venir à ce festival. Arnaud Desplechin, dont on sait évidemment qu'il est un grand cinéaste mais aussi un amateur, il n'est pas jaloux de ses confrères et qui est généreux et en tout cas qui admire beaucoup particulièrement Miloš Forman, donc il va nous en parler. Et puis Ntebin, critique et historien que nos auditeurs connaissent puisqu'il vient souvent parler des DVD qu'il commente avec sagacité, qui lui aussi évidemment a vu la plupart des films de Miloš Forman, peut-être tous en tout cas. Miloš Forman a fait 13 films. Ça m'a amené d'ailleurs à m'interroger sur ce chiffre, et finalement fatidique, de 13, puisque c'est exactement le nombre de films qu'ont réalisé Orson Welles, Stanley Kubrick, Robert Bresson, Théo Angelopoulos. Voilà, alors Arnaud, je ne sais pas combien vous en êtes, mais en tout cas,
je calcule terrifié.
Ralentissez le rythme, parce que 13, c'est fatidique. Mais ça m'a frappé, il y en a sûrement d'autres, les auditeurs vont compléter. 13 films, voilà. Donc, Miloš Forman, qui d'ailleurs a donné lieu... il n'y a pas beaucoup de livres sur lui, malheureusement. Je trouve que c'est un très grand cinéaste révélé dans les années 60, mais qui n'a pas eu tellement de commentaires de livres. C'est un mystère parce qu'il y a beaucoup de cinéastes, beaucoup moindres, qui ont droit à des tas d'ouvrages. Mais Jean-Claude Carrière avait publié un livre chez Plon il y a quelques années qui s'appelait « Les années d'utopie », qui s'appelait donc en sous-titre « New York, Paris, Prague, New York », qui était sur les années 68-69, ces années bouleversantes, avec évidemment mai 68 côté positif, côté négatif, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les soviétiques, mais il y avait aussi l'arrêt du festival de Cannes. Voilà, beaucoup d'événements.
Les massacres de Mexico.
Les massacres de Mexico, mais que vous n'évoquez pas dans votre livre, je crois. Non. En tout cas, déjà, on voit où se situe Forman, c'est-à-dire entre, justement, Prague et New York, avec deux périodes dans sa vie. D'abord, le nouveau cinéma tchèque, et puis ensuite un exil en Amérique où il a passé beaucoup plus de temps maintenant que dans son pays d'origine. Il a passé plus de 45 ans aux États-Unis et comme il n'a pas 90 ans, il y a plus d'années passées. Voilà. Alors, on pourrait déjà commencer par s'interroger sur cette Jean-Claude Carrière, sur cette double axe et puis ce qu'il est resté de tchèque en Forman.
C'est-à-dire que moi, je l'ai connu en 66. Dans un festival qui se tenait en Italie, les Journées de Sorrento, où la Tchécoslovaquie était invitée en même temps que la France. Nous avons beaucoup sympathisé, il y avait aussi Ivan Passer, Vera Kitilova, enfin d'autres cinéastes tchèques, et puis il est venu 2 ans plus tard à Paris, il m'a appelé et je l'ai invité à loger chez moi, habiter chez moi, il n'avait pas du tout d'argent, il faut voir ce qu'était le monde communiste à l'époque. Et le lendemain, je l'ai amené au studio à Joinville, qui existait encore, où se tournaient en même temps deux films auxquels j'avais collaboré, Le voleur de Louis Malle et Belle de jour de Buñuel. Alors il est allé dire bonjour à Louis Malle, on est allé ensemble, et puis je suis allé dire à Buñuel, il y a Miloš Forman qui est là. Qui ? On a dit Buñuel. Miloš Forman, vous savez, les amours d'une blonde. Et Buñuel a fait cette chose étonnante que, quand Miloš le raconte aujourd'hui, il pleure encore, il a arrêté le tournage de Belle de jour. pendant une heure, et il est allé passer une heure avec Miloš à la cafétéria et avec moi. Ça, c'était merveilleux. Ouais. Ensuite, 3 ans après, il m'a appelé de New York en me disant « Est-ce que tu peux t'arrêter à New York ?» J'étais au Mexique à l'époque, travaillant sur la Voie lactée avec Luis. Et parce que j'ai un projet de film à New York avec Claude Berry comme producteur. Il s'agissait d'adapter Hair, la comédie musicale. Alors je me suis arrêté à New York sur l'hôtel Chelsea, évidemment, comme il était obligatoire presque à l'époque. Si et je suis resté là assez longtemps, un mois et demi. Et c'était l'époque du Flower Power, de l'assassinat de Martin Luther King, des émeutes à Harlem. Et Miloš m'a dit, c'est absolument impossible qu'on travaille ici, parce qu'on ne pouvait pas adapter Hair, on n'avait pas les droits, mais on avait envie de faire un film sur ce milieu que nous découvrions, qu'on appelait les hippies, et que finalement on a fait, qui a été Taking Off, le seul film qui a été tourné sur cette brève période. Alors, à la fin du mois d'avril, il m'a dit, impossible de travailler à New York, mais j'ai un film, Au feu les pompiers, qui est sélectionné au Festival de Cannes, allons à Cannes. On est arrivé en France en mai 68, vous savez ce qui s'est passé, le Festival de Cannes arrêté. Nous voilà avec Jean-Pierre Rassam, Claude Berry, en panique, ne sachant que faire. On a réussi à rentrer à Paris, Miloš habite de nouveau chez moi. Il est malade, il comprend rien ce qui se passe. Il y a Carlos Saura était là aussi, un venait du franquisme, l'autre du communisme. Il comprenait pas du tout ce que nous désirions. D'autant plus que Vadim, un jour que nous avons rencontré, a dit à Miloš et à Ivan Passer, qui était avec leur petit costume et la cravate, comme ça, et Vadim avec une écharpe, la Ferrari au coin de la rue, Brigitte Bardot, qui leur disait, il est bien évident que ce que nous voulons avant tout, c'est l'avènement du socialisme. Et ils regardaient avec stupeur. Ils ne pouvaient absolument pas comprendre ça.
Ils faisaient tout pour l'abattre.
Oui, c'est ça. Oui, nous faisons tout pour rabattre le drapeau rouge. Vous faites tout pour le... Enfin, et mai se termine, retour à l'ordre. Et Miloš me dit, écoute, allons, on n'a toujours pas travaillé, allons dans l'endroit le plus tranquille du monde, allons à Prague. Nous sommes allés à Prague et les chars russes sont arrivés. Voilà à peu près, en résumé, on essayait d'écrire notre petite histoire et on était complètement pourchassés par la grande, terrible, de pays en pays. Et de là, il est parti aux États-Unis. Il avait le choix. Attendre à Paris et faire quoi? Il ne savait pas. Retourner en Tchécoslovaquie. Il aurait pu, mais il aurait été inquiété. Et sa femme et ses enfants étaient en Tchécoslovaquie. C'était venu un moment à Paris. Et il a choisi d'aller aux États-Unis. C'est le grand choix de sa vie.
Alors, Arnaud Desplechin, on vous souhaite, dans tous ces premiers films que vous allez juger, parce que vous êtes, j'ai oublié de le dire, président du jury avec Laetitia Casta comme vice-présidente de ce festival de premiers films. Donc, espérons que vous allez trouver un as de pique, qui est le titre du premier film de fiction de Miloš Forman. Il avait fait auparavant deux courts-métrages, enfin assez longs d'ailleurs, de documentaires. Il faut dire aussi une chose assez étonnante, j'ai parlé de 13 films, c'est que Forman est un des rares cinéastes qui tout de même n'a jamais fait un mauvais film. Il a fait des films plus ou moins réussis, mais jamais un seul mauvais film. C'est une carrière assez exceptionnelle. Alors, votre intérêt pour Forman, ça s'est passé à quel moment dans votre cinéphilie, votre jeune cinéphilie?
J'avais vu les films, je pense aux films tchèques, Les Amours d'une Blonde et L'As de Pique, Au feu les pompiers, tout ça, j'ai vu assez jeune en arrivant à Paris, vers les 17-18 ans. J'ai un peu, c'est pas du tout le même rapport, mais il s'est passé la même chose pour moi qu'avec Truffaut, c'est-à-dire que je suis un converti. Et je suis un fanatique parce que je suis un converti et ce sont les pires. Et ça m'est pas apparu tout de suite. Ça m'a apparu assez tard. Vous voyez, à l'époque, je me souviens très bien de la sortie de Amadeus. Voilà, je tenais le film pour peut-être pas assez radical pour mon goût de l'époque ou quelque chose comme ça.
J'étais assez cahier du cinéma.
Voilà. Et donc je suis passé un petit peu à côté du film. Et il y a un film qui m'a ouvert les yeux véritablement. Et c'est pour ça que je suis très ému d'être devant vous. C'est Valmont. Et Valmont, pas à sa première vision. C'est plus tard qu'en retravaillant le film, en le repensant comme ça, je me suis rendu compte des petites choses que c'est peut-être le cinéaste vraiment le plus sensuel que je connaisse. Peut-être avec, sur un registre très différent avec Stroheim. C'est-à-dire que je me suis souvenu un jour, bien sûr, quand le film, je vous disais que j'étais un converti, quand le film est sorti, j'avais vu Les Liaisons Dangereuses. Alors je voyais que Les Liaisons Dangereuses, le film de Frears, était efficace. Et tout d'un coup, Valmont ne jouait pas dans la même cour. C'était différent. La question de l'efficacité ne se posait pas. Alors il y avait un effet presque déceptif sur l'audience. Mmh. Et puis comme ça, une nuit, j'ai rêvé. Et je rêvais de l'herbe, vous savez, quand il fait du soleil et qu'on est assis à l'ombre et que l'herbe est un peu humide. Et je me disais, mais je ne pars jamais en vacances, ça peut pas être un souvenir. Et je me suis rendu compte que ça me venait d'un film, et ça me venait de Valmont, que j'avais vu il y a 2 ans, la scène merveilleuse où Valmont se bat à l'épée avec la jeune Cécile de Volanges, et pendant que la présidente et Merteuil regardent l'homme aimé, et qu'elles sont comme ça un petit peu à l'ombre, et je me souvenais de sensations. Je me disais, mais quel autre cinéaste m'aura apporté ainsi des sensations? Et c'est pour moi, dans ce sens-là, c'est un maître. Là, je pense au film que j'ai eu la chance de tourner cette année, aux 3 souvenirs, je dois tant à L'As de pique et aux Amours d'une plombe que j'ai arpenté dans tous les sens avec Julie Père, la scénariste, qu'on a retourné, analysé, disséqué, et me frappe aujourd'hui dans les films tchèques, là, je pense à Au feu les pompiers, parce que j'ai présenté 2 films au festival, c'est Ragtime et Valmont. Et Ragtime a beaucoup à voir avec Au feu les pompiers. J'étais étonné en revoyant ces films tard et ayant moi-même commencé à en faire par la maturité. Si je comparais au cinéaste de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire j'ai l'impression que cet homme venant d'une dictature, venant de situations de vie plus difficiles que la situation française, a immédiatement une maturité de cinéaste qui me sidère. Si je compare avec les cinéastes du même âge qui travaillent au même moment en France, et cette maturité du regard dès L'As de pique, c'est quelque chose qui m'enchante. 1000 fois.
Il faut ajouter peut-être qu'il y a eu un entracte dans sa vie de réalisateur après Taking Off, qu'il tourne en 70. Il se passe plusieurs années aux États-Unis avant qu'il puisse refaire un film. Il a traversé des années très difficiles où il était complètement fauché. On était quelques-uns à lui payer sa chambre d'hôtel et ses repas. Avant qu'il avait fait tourner un sketch dans Vision of Eight, la vision des 8 sur les Jeux Olympiques, le côté des battus, des vaincus. Et ce n'est que quand il a refait son premier grand film, Vol au-dessus d'un lit du coucou, mais c'était 6 ou 7 ans après.
Qu'il a eu d'ailleurs un énorme succès populaire, qui a eu l'Oscar, un de ses 2 Oscars, parce que Amadeus était son 2e Oscar. Alors, Ntebin, vous, en tant que cinéphile qui est critique, si vous revoyez ces films, enfin, si vous y pensez, quel a été l'intérêt que vous avez porté à Forman? Alors, peut-être, justement, on pourrait parler de cette période tchèque et de cette période anglo-saxonne, américaine.
C'est-à-dire que moi, alors j'ai un souvenir, quand j'étais adolescent, je suis arrivé un petit peu trop tard pour découvrir les premiers films de Forman, de la même manière que La Nouvelle Vague, au moment où ils sortaient. C'était déjà des films qu'on voyait dans les ciné-clubs et qui nous donnaient une sorte d'impression de liberté incroyable par rapport à ce qu'on voyait à la télévision ou des films français qui sortaient à l'époque, ou même des films américains. Bon, il y avait ce côté libre. Et ensuite, il y a eu la période américaine, et c'est vrai que moi, honnêtement, quand je suis devenu jeune critique ensuite, ça m'a un peu dérouté, c'est-à-dire que Forman, c'est peut-être l'une des raisons qui explique qu'il n'y ait pas énormément de livres sur lui, parce que quand on voit tous ces films, il faut les creuser pour arriver à leur trouver un style commun. Puisque, je crois, dans un entretien avec vous, Michel, Forman disait qu'un jour, un cadreur est venu le voir, je crois que c'est justement sur Valmont, et lui a demandé si ce film, pour lui, avait un style. Et Forman lui a répondu, mais si la vérité apparaît à l'écran, alors ça voudra dire que le film aura du style. Et je pense que cette exigence de vérité a fait que ça a un peu masqué les véritables constantes ou les obsessions ou la thématique ou même l'unité et la cohérence de Forman en tant que cinéaste. Et pour moi, et en revoyant ces films aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est un cinéma de la lucidité. Lucidité vis-à-vis de ces personnages qui ne sont jamais des personnages taillé d'une pièce, mais où il aime explorer toutes les facettes d'un personnage, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde. Parce que, d'une certaine manière, tous les films de Forman sont des films monde. Peut-être les films tchèques constituent en eux-mêmes la description d'une société et d'un monde. Mais tous ces films, pas seulement les films choraux comme Ragtime, mais Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais aussi des films qui peuvent paraître plus intimistes ou plus sur un ou 2 personnages, on s'aperçoit que finalement, tout à l'heure vous parliez de Taking Off, ce qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où il décide avec Jean-Claude Carrière de faire ce film sur les jeunes hippies, bah, tout d'un coup...
qui quittent leur famille.
Oui, qui quittent leur famille, mais tout d'un coup, il va s'apercevoir que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de l'adversaire, c'est-à-dire de montrer les parents autant, sinon plus, que les enfants.
Plus, plus. Nous nous sommes rendus compte que nous étions de l'âge des parents, et pas du tout de l'âge des fugitifs.
Mais
c'est pour ça que le film tourne surtout autour des parents.
Mais il y a toujours chez lui la volonté de montrer le point de vue de l'adversaire. Je pense que à cet égard-là, il y a un film assez oublié aujourd'hui, mais qui est très significatif, c'est Man on the Moon, puisque on a un homme qui est son propre adversaire. C'est-à-dire, ça peut très bien être au sein d'un personnage unique, mais c'est aussi d'une génération à une autre, d'un homme par rapport à un groupe social ou par rapport à la société en général. Et cette lucidité, il se l'appliquait à lui-même aussi. C'est-à-dire, il y a une phrase merveilleuse. À un moment, vous lui posez comme question, Michel, dans un entretien, mais ça vous fait rien depuis 3-4 ans de ne pas avoir tourné de film ? Et puis, il répond non, la vie m'a nourri. Et puis alors, il a cette phrase que je trouve géniale. Pour faire une belle merde, il faut avoir bien mangé avant. Et ça, il y a la lucidité, il se l'appliquait à lui-même aussi.
Alors Jean-Claude Carrière, justement, vous avez écrit avec pour Forman les Fantômes de Goya, film vraiment pratiquement inconnu. Bon, heureusement, je le dis aux auditeurs, toute l'œuvre de Forman est disponible en DVD, donc on peut voir ces films. Et Fantômes de Goya, c'est tout de même le film d'un homme qui a vécu d'abord sous le nazisme, qui a perdu ses parents à Auschwitz, le père et la mère, qui a découvert comme Truffaut que son père n'était pas celui qu'il croyait, qui était en fait un père juif, qui ensuite a connu le stalinisme et également la répression, et ensuite il a connu Hollywood, certes, je ne comparerai pas, oui, mais qui est tout de même aussi un système très coercitif,
oui, très coercitif
et qui a toujours réussi à survivre. Oui, oui. Et je pense que ça a nourri cette expérience traumatisante de l'histoire, a nourri une sorte de scepticisme et d'ironie à l'égard du système, puisque dans Les Fantômes de Goya, il y a ce personnage de l'inquisiteur, horrible personnage de l'inquisiteur joué par Javier Bardem, qui devient commissaire de la République avec Napoléon, qui passe à Paris et qui revient, donc qui a réussi à faire volte-face comme tant d'anciens communistes, etc. Bon, ouais. Ou d'anciens nazis qui se sont retrouvés dans des places importantes en Allemagne ou en Tchécoslovaquie aujourd'hui. Voilà, je crois que
la même conviction.
Avec la même conviction. Je pense. Et d'autre part, Goya, qui dans votre scénario est un personnage qui est intègre d'un point de vue artistique, c'est-à-dire que par exemple, il montre la reine d'Espagne dans toute sa laideur. Oui. Alors, un tableau qui lui était commandé, c'était pas très. Mais par contre, il est fidèle à son art. Mais par contre, dans la politique, etc., il ne se mouille pas beaucoup. C'est-à-dire, il réussit à passer à travers les gouttes. Oui. Est-ce que c'est pas une forme d'autobiographie et aussi d'un reflet de l'histoire même, de la grande histoire que Forman a vécue à travers l'Espagne de cette époque?
Pendant que nous écrivions le scénario, qui partait de rien, on était au Festival de Cannes un jour tous les deux, il avait envie de faire un film en Espagne, ben je lui dis si tu veux, partons, ben louons une voiture. On a loué une voiture à Cannes, le soir on couchait à Barcelone, et ensuite je l'ai amené je connaissais bien l'Espagne, dans certains endroits que je connaissais, à chaque fois en lui racontant des histoires, comme ça, sur l'histoire d'Espagne. Bon, je parle espagnol, je connais bien l'Espagne. Bon. Et petit à petit, c'est dans ce voyage, en voiture, qu'est née cette idée d'un personnage qui irait d'un bord à l'autre, et d'un extrême bord à l'autre. Et bien entendu, on ne pouvait pas s'empêcher de faire des rapports, des relations avec ce que il avait connu, ce que nous avons connu l'un et l'autre, mais en même temps avec le désir de ne pas souligner, de ne pas insister sur le fait que voilà, c'était le régime napoléonien, a peut-être des rapports avec le régime stalinien, qui sont vrai, de pas aller là-dedans. Ce en revanche, de quoi nous avons beaucoup parlé, c'est que quel style donner au film, et ça c'était toujours une question. Et un jour j'ai dit à Miloche, qui le savait mais peut-être l'avait oublié, que la Révolution française, que les grands révolutionnaires français étaient tous des grands lecteurs des romans gothiques anglais. D'Anne Radcliffe, etc., de Monclewis, et que c'est l'époque où naît le mélodrame, comme genre, comme style, et que peut-être on pourrait donner au film secrètement l'allure d'un mélodrame, ce qui en ferait vraiment un film d'époque. Donc là, on a parlé en même temps et de ce qu'on allait raconter et de la manière de le faire, c'est vrai.
D'ailleurs, le personnage de Nathalie Portman qui vit avec son enfant en prison, c'est les deux orphelines de Griffith.
Oui, tout à fait.
Il y a ce côté-là.
Bien sûr. Il y a aussi un film de lui que j'adore, c'est Au feu des pompiers, qui est un film que je pense peut-être le film où il est allé le plus loin dans une espèce de, j'allais presque dire de cynisme, enfin de regard dénué de toute espèce d'indulgence ou de parti pris. Le film est très étonnant, je trouve. Mais il est sorti à Paris en mai 68. Les cinémas étaient fermés. Et je me rappelle c'est une image inoubliable. Il passait dans un cinéma de Saint-Germain-des-Prés. La grille, c'était la nuit. La grille était tombée et il y avait un feu qui brûlait devant le cinéma. Au feu, les pompiers.
C'était un jeu de massacre, ce film. C'est un jeu de massacre. Un petit peu comme Taking Off, d'une certaine manière.
Oui, mais au feu, les pompiers ne prenaient pas tellement la défense du peuple tchèque. Hein, ils étaient tous, mais il y a des plans inoubliables, le coffret qui est vide, enfin, les choses que Miloš ait osé aller jusque-là. On met le feu, à la fin, il y a un incendie de la maison d'un paysan. Il est là tout seul, il a froid, il est assis sur une chaise, on le rapproche de la maison qui brûle pour le réchauffer. Ça m'a toujours paru très étonnant.
Arnaud Desplechin.
Pardon, à l'inverse de ce sentiment, de ces images, de ce style gothique qui est sur le Goya, qui est très vrai, qui me fait mieux voir le film, il y a cette merveilleuse innocence dans Valmont, comme si pour avoir un accès libre à une telle perversion, à de tels calculs, il fallait être enfantin. Il fallait que ce soit ce monde avant la Révolution, qui ait une pureté et une enfance chez Valmont et chez tous les personnages. La jeune Cécile de Volant, j'ai oublié le nom de la jeune actrice, mais il y a une aspiration, ils ont tous une aspiration à l'enfance, et c'est après la Révolution arrive, et le savoir arriver aujourd'hui, c'est vrai que, ayant revu le film de Stefan Frears, je trouve que le film pêche un peu par ce romantisme noir, comme ça.
Non, c'est l'adaptation de la pièce de Christopher Hampton, hein, le film de Frears, c'est l'adaptation très fidèle d'une pièce. Elle-même fidèle au livre. Nous, dès le début sur Valmont, il y a deux choses qui nous ont paru impossibles. C'est pour ça qu'aussi on a totalement changé la fin. Mais on allait toujours vers, non pas de faire un film qui soit évidemment pas fidèle à la clos, pas forcément fidèle, mais pas non plus fidèle à l'esprit du temps. Faire un film qui soit pour aujourd'hui, acceptable aujourd'hui, et que tout en gardant le charme de l'époque.
Ça se passe plutôt dans le 18e siècle, plutôt vers le début.
Pour une raison précise, c'est qu'on l'a situé dans les 15 ans du 18e siècle où les perruques étaient très légères, et même où il n'y en avait pas. Elles sont revenues par la suite, et ce n'est que sous la Révolution que les perruques ont complètement disparu. Et aussi, autre chose que je recommande à pas mal de gens qui adaptent des romans, c'est de ne pas forcément commencer au moment où le romancier commence. Valmont commence avant, quand Cécile est encore dans un collège. Tout ça n'est pas dans le livre. Et ça, c'est une autre lancée pour le récit de l'histoire que celle du livre. Ça vous oblige forcément à une autre approche. Ça, c'est une chose que je recommanderais.
Vous êtes sur France Culture, projection privée, Michel Simon.
Arnaud Desplechin, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un esprit Mitteleuropa, cette Europe centrale, dans ce que Bean appelait la lucidité, c'est-à-dire une sorte de scepticisme à l'égard des idéologies qu'on retrouve chez Billy Wilder, qu'on retrouve chez Preminger, et d'ailleurs tous juifs, donc d'un peuple opprimé, qui regarde, qui fait partie de la société tout de même, c'est pas le lumpen prolétariat du tout, ils font partie de la société, mais ils en font pas vraiment totalement partie, et ils ont un regard acéré sur cette société. Vous ne trouvez pas ça dans tous les films de Forman?
Si, c'est très fort, oui. Il y a cet esprit-là qui fait penser à des écrivains, aux écrivains tchèques. Il y a ce regard de côté, ce regard de biais. Et c'est, il y a une cruauté, mais c'est le mot de cruauté n'est pas exact, non. Il y a un sens du sarcasme qu'on voit, bah, évidemment, qui est enflammé, oui, dans Au Feu les Pompiers, mais qu'on retrouve partout. Et je pensais aussi, quand N.T. Bean parlait de toujours donner raison à l'adversaire, je pense, il y a un goût comme ça à pouvoir donner. Je pense très, très vite, dès son premier film, la merveilleuse scène avec le père. Quand on donne la voix au père dans L'As de Pique, dans la dernière scène de L'As de Pique, qui est une scène tout à fait vertigineuse, parce qu'on pense que le film va suivre le point de vue de ce jeune garçon qui est une aspiration à la liberté. Son père, le temps se passe, son père lui parle avec son expérience qui est complètement différente. Et je ne sais pas quel âge Forman a le film quand il le réalise, mais déjà il sait prendre le point de vue de l'adversaire. Il sait prendre. Ça, c'est magnifique.
Il avait 30 ans.
30 ans.
Il avait 30 ans, oui.
Et ça suppose un. Mais c'est là où je vois une maturité extrême.
Mais dans ce que vous venez de dire, il y a une chose qui me frappe et qui me rappelle une phrase que Forman disait quand on lui posait la question sur Amadeus ou Larry Flint ou Man on the Moon. On lui disait, mais qu'est-ce que ça vous fait de faire des biopics, des films biographiques? Et il répondait, mais tous mes films sont des biographies. Que ce soit de personnages de fiction ou de personnages réels, ce sont des biographies. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire la volonté de vouloir, par exemple, montrer la jeunesse des personnages, de montrer leur enfance. Il y a ça dans beaucoup de ces films, et de montrer comment, où se situe la racine de l'être. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il a beaucoup rajeuni par rapport à l'imagerie qu'on en a, les personnages des liaisons dangereuses. Parce que ce qui frappe quand on voit le film, c'est la jeunesse de ces personnages.
Oui, ils ont moins de 30 ans.
Ce que vous appeliez ils sont peut-être proches de l'adolescence,
c'est un problème général, ça. Pour tous nos ouvrages classiques, nous vieillissons les personnages. On oublie toujours, par exemple, que Phèdre a 22 ans. Si on fait jouer Phèdre par une actrice de 22 ans, c'est une autre pièce.
Jean-Claude Carrière, ce qui me frappe aussi, c'est que par rapport à ses camarades de la nouvelle vague tchèque, Vera Chytilova, Jan Niemetz, Ivan Passer, Forman est un gagnant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui de fort, de résistant, ce qui explique son succès à Hollywood, par exemple, avec son ami tout aussi doué, Ivan Passer, Éclairage intime est un chef-d'œuvre absolu. Et pourtant, il n'a pas du tout... Il a fait un beau film en Amérique, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'avait pas de talent, mais il n'a pas réussi à s'imposer. Et Forman est un survivant, comme je disais. Et d'ailleurs, je le compare à Chaplin. Il disait d'ailleurs, Chaplin, c'est le premier metteur en scène qui m'ait jamais touché par son mélange de comique et de pathétique. Et je pense qu'il y avait chez Chaplin aussi la même idée d'être un cinéaste populaire. Forman a réussi à faire un cinéma populaire à l'intérieur du système en étant lui-même. Alors que les autres sont plutôt restés dans un cinéma d'auteur qui n'a jamais réussi à percer.
Il est évident qu'il s'est adapté au système américain au point d'en triompher deux fois. Il a eu deux fois l'Oscar. C'est aussi dû d'abord à ses qualité propre et à son caractère particulier qui est que en effet il veut toucher, il veut aller vers les gens et non pas faire, il n'a jamais parlé de faire une œuvre personnelle. Je n'ai jamais entendu dire ça. C'est-à-dire de faire mon film, je vais faire mon non. Il a toujours cette phrase clé pour lui, c'est quand on lui montre quelque chose, quand on lui propose quelque chose ou il a ou j'y crois ou je n'y crois pas. Si j'y crois, ça va. Si je n'y crois pas, tu auras beau faire des cabrioles et tenter de me persuader par tous les moyens, tu n'y arriveras pas. J'y crois ou je n'y crois pas. Alors, et ça marchait très fort aux États-Unis. Il est allé très très loin. Vol au-dessus d'un nid du coucou, c'est un film terrible si on le regarde attentivement, mais vrai. On y croit. Il n'y a pas un instant, on ne met en doute ce qui se passe dans le film. Et lui-même le croit. Ouais. J'ai vu récemment à la télévision un reportage sur le tournage où j'étais à Salem du vol au-dessus du coucou, le directeur de l'hospice est toujours vivant. Il jouait son propre rôle dans le film. Il est toujours vivant et il racontait à quel point cette expérience de devenir lui-même, de jouer son propre personnage, l'avait frappé à mort, pour la vie.
Il y a aussi un goût de Forman pour les vols au-dessus du coucou, m'y fait penser, pour les révoltés, les marginaux, les originaux. Je veux dire, Larry Flint, bon, là c'est le porno, mais c'est tout de même un personnage hors norme. Man on the Moon, c'est un comique américain, là aussi.
Amadeus.
Voilà, Amadeus, évidemment. Donc il y a aussi un goût pour des personnages qui sont en but contre le système.
Pour le vol au-dessus du coucou, il ne fait pas de doute, pour moi et pour personne, que il y a une image de la Tchécoslovaquie comme elle était déjà dans On fait les pompiers.
Avec l'infirmière Rachel.
Oui, absolument.
Oui, qui veut faire le bien des gens. Oui, c'est le système. On veut faire le bien des gens contre leur volonté.
Oui, vous êtes dans l'erreur et je vais vous ramener dans la vérité. Ce qui est le cas aussi dans Les fantômes de Goya, à part que la vérité change de côté.
Est-ce que vous étiez conscient quand vous écriviez Les fantômes de Goya que Goya était un peu un double de
oui,
Forman?
Oui, oui.
Parce que,
pas un double de Forman, mais un double de Salieri, éventuellement.
Alors,
de Forman, on n'a pas tellement parlé de ça.
Oui, c'était trop intime, mais je pense qu'il y a un autoportrait.
C'est possible.
Parce qu'à un moment, il y a une séquence assez prodigieuse où, avec le personnage qui n'a pas arrêté de changer de casaque, là, joué par Bardem, il se traite de pute l'un l'autre. C'est-à-dire, toi, t'as pas arrêté de changer, et puis, oui, mais toi aussi, toi. Et en fait, on a l'impression que c'est presque un discours de vous, mais sur Forman qui est passé aussi d'un système à l'autre et qui s'y est très bien adapté, mais tout en gardant son exigence de vérité et de.
Il n'a jamais fait un film américain pour rentrer dans le système américain. Ouais. Il a refusé beaucoup, beaucoup de projets. Il a eu deux fois l'Oscar, on lui proposait un film par semaine qu'il rejetait parce que il ne le sentait pas.
C'est ce que je disais tout à l'heure, cette équivalence entre Forman et Goya, c'est d'ailleurs le titre en français de son autobiographie, parce que on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Le meilleur livre sur Forman, c'est tout de même son autobiographie, qui s'appelle en français Turnaround en anglais, mais en français Et si on dit la vérité? Et on dit la vérité. C'est le titre français.
Je peux vous dire d'où ça vient.
Alors, vous allez nous le dire, mais je voulais terminer. Oui. Et on dit la vérité, c'est tout de même ce que fait Goya dans sa peinture. Oui, on dit la vérité, même si par ailleurs, on s'accommode des différents régimes dans lesquels on passe.
Mais cette phrase-là, avec beaucoup frappé Miloche, elle est de James Cagney, avec qui il a joué dans Ragtime. Et répondant à la question d'un journaliste, mais Miloche était présent, Jimmy Cagney a dit jouer la comédie, c'est très facile. Tu te plantes en face de ton partenaire, tu le regardes et tu dis la vérité. Alors, le titre est venu de là.
Arnaud, aussi quand vous parlez de sa position par rapport à Hollywood, il a travaillé avec de très grands acteurs, bien entendu, mais et pourtant, comme tous ses films sont effectivement des films au monde, il n'est pas rentré dans le star system. On n'arrive pas à voir que c'est pas. Je mesure aujourd'hui, je repense à pourquoi je n'ai pas mesuré tout de suite l'importance que Valmont aurait dans ma vie. Colin Firth, je ne savais pas quoi penser de sa performance. Aujourd'hui, la situation a changé puisque à travers quelques films, Colin Firth est devenu vraiment un des acteurs anglais qui me passionne le plus. Je pense à La Taupe où il est merveilleux. Un homme au singulier où il est merveilleux. Mais c'est les personnages qui l'intéressent avant le star system. Et d'arriver à survivre à l'intérieur d'Hollywood sans se servir du star system en me bottant un peu en touche. Je pense aussi à ces merveilleux dessins qu'il arrive à faire avec ces personnages qui sont muets. Le serviteur dans Valmont ou dans plein de Ragtime qui est un film monde fourmi de ces personnages comme ça où il arrive, ce qu'il savait déjà faire dans ses films de jeunesse, de ces personnages qui sont une attitude, qui viennent du, on sait pas s'ils viennent du mime, du cirque ou de, et qui arrivent à incarner un personnage avec trois fois rien. Mais alors du coup, ça le mettait un petit peu à côté du star system américain, puisqu'il y avait ces acteurs fétiches à lui, qu'on les voit très bien aussi dans Amadeus, et ces personnages qui ont, voilà, oui, une attitude, une grimace, et le sketch, le dessin est fait, quoi. Et ça me frappe très fort.
Une débile.
Oui, par rapport au star system, il y a une chose qui m'a toujours frappé chez Forman, et qui est intéressante quand il la théorise lui-même, parce que c'est inattendu, c'est que dans tous ses films, depuis ses premiers films de fiction, mais jusqu'au bout, il a toujours mélangé des acteurs professionnels, des stars, avec des non-professionnels et parfois avec des gens très connus dans la vie civile ou dans la vie publique, mais qui n'étaient pas acteurs.
Norman Mailer,
qui joue le rôle de l'architecte dans Ragtime, mais aussi Larry Flint, le vrai Larry Flint,
qui joue
le rôle du juge qui condamne le faux Larry Flint du film de Larry Flint. Et Forman disait, mais quand des acteurs professionnels sont en contact de non-professionnels, ils sont intimidés, ils veulent faire encore mieux pour être encore plus crédibles. Et en plus, quand ces acteurs non-professionnels sont des personnalités connues, ils sont d'autant plus impressionnés et ils veulent se montrer sous leur meilleur jour en tant que non pas faiseur et acteur, mais en tant que incarnant des personnages. Ils sont encore meilleurs en incarnant des personnages quand ils sont confrontés à des vraies personnes.
Il disait toujours qu'il faisait le pari que personne au monde ne refuserait d'apparaître même pour une minute dans un film. Et il a tenu ça dans Taking Off, il y a dans la scène de la leçon de marijuana, quand même j'ai eu le privilège d'écrire une leçon de marijuana, This is a joint, après c'était merveilleux à écrire. Il y a un des figurants qui était un grand patron d'industrie, qui arrivait en hélicoptère tous les matins à son bureau, sur un building de New York, et qui est venu passer 4 jours avec nous pour le plaisir d'être dans le milieu du cinéma.
Dans Taking Off, il y a des gens qui vont devenir très célèbres, qui figurent dans Taking Off.
Bien sûr, il y avait Tina Turner, il y avait Carly Simon. Janis Joplin, avec qui nous étions très amis, n'a pas pu venir, elle n'était pas là au moment où on tournait. Il faut dire aussi que Miloche disait que dans les acteurs non professionnels qu'il prenait, c'était le cas déjà dans The Peak, il souvent choisissait des hommes ou des femmes qui avaient un contact avec un public. Par exemple, un professeur qui parle à des élèves qui donc a l'habitude déjà de s'exprimer, d'aller vers des gens. Ça, il l'a fait assez souvent.
France Culture, projection privée, Michel Simon.
Alors comment vous voyez Miloš Forman en tant comme homme, on a parlé de l'artiste, mais moi ce qui m'a toujours frappé, c'est d'une part l'extraordinaire puissance que dégagent ces films, l'énergie qu'il y a dans ces films, des portraits tellement vivants de tous ces personnages, une mise en scène au couteau, au cordeau, vraiment très forte, et dans la vie, quelqu'un de plutôt, pas assoupi, mais plutôt comme ça, qui prend plaisir à la vie.
Un bon vivant, oui.
Un très bon vivant, mais qui ne dégage pas cette énergie qu'on voyait dans ces films. Moi, je me rappelle que je l'interviewais dans son appartement au moment de R, de la comédie musicale, qui se passe, on le sait, en partie dans Central Park, et il était dans cet appartement avec une baie vitrée qui donnait sur Central Park, et il me disait... Voilà presque mon rêve, mettre en scène mon film à partir de mon lit, depuis mon lit. Oui, voilà, oui. Il y avait un peu de ça, ressent quand on voit ses films.
Non, pas du tout, il était toujours très à l'heure et très actif, mais ce que je crois, et ça c'est impénétrable, je crois que comme tous les grands artistes, il avait un secret, il avait une faille quelque part, il avait un gouffre auprès duquel il marchait prudemment. Je n'ai jamais voulu le questionner là-dessus, mais c'est pas possible autrement. Je veux dire, c'est pas possible qu'il ait conservé une telle maîtrise technique en parlant de sujets aussi quelquefois aussi brûlants, aussi dangereux, aussi même vertigineux quelquefois, sans avoir en lui cet appel. C'est-à-dire, ce n'est pas un auteur froid. C'est pas possible.
Alors Arnaud Desplechin, vous êtes aventuré avec succès dans le film en costume avec Esther Kahn et même dans le film sur les Indiens des plaines, le traitement psychanalytique, voilà. Mais Forman, ce qui me frappe, c'est que après R, justement, dont on parlait, les six films qu'il a fait ensuite, ces six films qui sont la fin de son œuvre, Ragtime, Amadeus, Valmont, Larry Flynn, Man on the Moon, Le Fantôme de Goya, bon, à part Larry Flynn qui est un peu contemporain, tous ces films sont des films en costume. Ouais. Et en même temps, non pas qu'il fasse oublier les costumes, mais il a une façon d'aborder le film en costume qui est l'opposé justement des films guindés qu'on peut voir souvent dans les grandes productions, etc. Il retrouve une sorte de justesse et de côté presque présent.
Oui, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un souci dans les reconstitutions qu'on peut voir. Il y a un souci à la façon de... Il y a un souci des personnages à chaque fois dans le décor. Je repense à un détail, c'était un détail qui nous frappait dans Valmont pendant la préparation d'Esther Kahn, puisque dans Esther Kahn, la jeune fille va au théâtre pour la première fois, elle change de rive, elle va sur l'autre rive de la Tamise, elle arrive et c'est un théâtre populaire yiddish, et elle regarde ça, elle est pleine d'enthousiasme, et ça nous frappait le début des opéras qu'on voit dans Valmont, c'est on voit le système des lustres qu'on monte ou qu'on descend pour ramener la lumière ou pour la dissimuler. Et suivant l'effet de lumière qu'on veut faire.
Et dans Amadeus aussi.
Dans Amadeus également. Et on voit ces mèches que les personnes... Et du coup, on voit le souci de dire, mais on faisait comment? On faisait comment pour allumer des bougies? On faisait comment pour éteindre, pour baisser le niveau? Donc il y a une attention au personnage, à comment les gens vivent. Il y a une attention à cette vie des gens que je trouve, je trouve très, très fort.
Il y a le documentaire sur la gravure dans Goya aussi.
On a tourné là 3 minutes qui est merveilleux, qui est très bien fait. Mais par exemple, pour donner un seul détail, dans Valmont, il y a la Cécile Volange court dans un couloir, glisse et tombe. Il s'agit évidemment d'un accident de tournage. C'est pas prévu dans le scénario. Il l'a gardé dans le film. Et un critique américain, totalement stupide, a dit « Il est impossible qu'une jeune fille de l'aristocratie française tombe dans un couloir. » Et Miloš montrait ça en disant « Mais comment peut-on écrire une connerie, une stupidité pareille ?»
Mais la vie excède, quoi. Dans ces films, la vie excède.
Ça, on tombe aussi bien quand on est aristocrate que comme Valmont lui-même tombe dans l'eau.
Oui, quand il tombe dans l'eau.
On parlait des costumes à l'instant, il en sort complètement trempé. Ah. On n'a jamais vu ça dans un film d'époque. Ah.
Mais il y a une question que je voudrais poser à Jean-Claude Carrière, parce que vous avez été co-scénariste avec lui et que vous avez assisté au tournage. La fameuse question, parce que Forman en parle souvent dans ses interviews, des improvisations au tournage, puisqu'il dit souvent que même le texte, parfois, il laissait ses personnages, à partir d'une trame, aller plus loin ou lui proposer d'autres choses avant de faire la version définitive.
C'est vrai dans certains films, c'est un peu vrai dans Taking Off. Ouais. Avec Buck Henry, Mais ce n'est pas vrai dans les films de la maturité qui ont suivi. Le scénario du Coucou, c'était très très précis, c'était très écrit. Je ne pense pas qu'il s'en soit vraiment éloigné. Ce qu'il faisait souvent, c'est un metteur en scène qui ne tourne pas monté, déjà. Hein. Buñuel tournait monté. Il avait
dans
déjà
sa tête,
son montage en tête et son montage image était fait en 3 jours. Miloš tourne toujours avec plusieurs caméras. Et il fait son fils d'un très très grand monteur. Il a d'ailleurs travaillé comme monteur sur d'autres films que les siens. Et il aime beaucoup ça. Le moment où il est, et moi aussi, être avec lui dans la salle de montage, c'est passionnant. Parce que on peut voir la même scène, maintenant surtout avec des techniques d'aujourd'hui, plusieurs écrans, de différentes manières. Et ça change tout, quelquefois. Donc là aussi, il y a une forme d'improvisation personnelle de lui et des acteurs pendant qu'il tourne, et ensuite, il fait son choix.
Je crois qu'il est très soucieux de ne pas entraver la liberté
de mouvement des acteurs,
parce qu'il a même, il disait qu'il avait renvoyé à Axel Wexler, qui est un des plus grands chefs opérateurs qui vient de quitter.
Dans le Coucou,
pour le Coucou, parce que justement, il voulait imposer aux comédiens des marques, il allait même parler aux acteurs derrière son dos, etc. Il s'est fait virer.
Alors, il y a aussi autre chose, on pourrait dire que pour Forman, parfois, il est musicien, ou en tout cas amateur de musique, plus encore que cinéaste. C'est-à-dire que le rôle de la musique dans ses films est très très important. Et dès les documentaires qu'il a fait avant de faire L'As de Pique, S'il n'y avait pas ces guinguettes, et puis Concours, qui sont des films sur justement des concours de chansons qu'on retrouve d'ailleurs dans Taking Off, évidemment Air, qui est une comédie musicale, il y a énormément de Mozart, bien sûr. Donc la musique est me semble très très importante. D'ailleurs, il raconte que la révélation qu'il a eue peut-être du cinéma, c'est de voir un film muet qui est La fiancée vendue de Smetana, qui est un opéra, et qui était en muet. Donc ça il trouvait ça très étrange à 6 ans de voir un film muet.
Il disait que les gens chantaient dans la salle.
Et les gens chantaient dans la salle.
C'est ça que, parce que je crois qu'il y a ça aussi. C'est qu'il voudrait que les gens se mettent à perdre contrôle finalement de leur raison, et puis bouger, vivre, donc chanter, danser avec les personnages. Et c'est par la musique qu'on s'oublie le plus, finalement, non, je pense.
Puisque Michel parle de musique, l'une des plus belles scènes de Miloš est la scène dans Amadeus du Requiem de Mozart, oui. Quand il compose sur son lit de mort un Requiem, et qu'on entend que la musique vient quand il dit les trombones, on les entend, et peu à peu se compose toute l'œuvre. Cette scène-là n'est pas dans la pièce qu'il a adaptée. Ça, c'est une scène qu'ils ont rajoutée au moment dans le scénario. Et qu'il a particulièrement perfectionné pendant le tournage, qu'il a même recommencé. Parce qu'il sentait qu'il tenait quelque chose là de tout à fait fort.
Alors il faudrait, si on était plus tard, faire d'ailleurs des vies parallèles. C'est Amadeus qui m'y fait penser, qui a été mis en scène au théâtre par Roman Polanski et au cinéma par Miloš Forman, parce que ils sont nés à un an de distance, et finalement ce Polonais et ce Tchèque sont aussi des gens d'abord qui ont survécu, et Dieu sait si Polanski a survécu.
Qui sont partis déjà.
Ils sont partis, qui ont réussi tous les deux à Hollywood.
Et qui ont survécu à l'exil.
C'est pas le cas des Français qui ont beaucoup de mal à réussir à Hollywood. Et comme me disait Forman, nous on a réussi parce qu'on n'avait pas de ticket retour. C'est-à-dire qu'en France, on peut revenir en Bourgogne, faire de bons repas, etc. Tandis que nous, le communisme, il n'était pas question d'y retourner. Donc, c'est intéressant, ces deux Slaves qui sont de très très grands artistes et qui ont des... Bon, Polanski, malheureusement, ne peut plus tourner en Amérique, mais c'est quand même des destinées parallèles très intéressantes.
Ouais. Et Miloš, qui pourrait tourner en Tchécoslovaquie, n'y tourne pas. Il revient très souvent maintenant, depuis 20 ans, mais il n'a jamais eu envie de faire un film en Tchécoslovaquie.
Arnaud Desplechin.
Me frappez, vous parliez de la musique, de ce goût de la musique, me frappe aussi dans Ragtime, il y a cette réplique mystérieuse où on se demande, les personnages caucasiens se demandent si le joueur de jazz, l'afro-américain, sait lire les notes. Ils disent, mais vous savez pas lire les notes. Ils disent, je lis les notes tellement bien que les blancs en sont sur le cul. Et puis, il commence à jouer, mais sait-il les lire ou est-ce qu'il improvise? Et ça fait penser à tout le film qui est une suite d'improvisations, de motifs visuels, avec au cœur du film, un plan qui me touche infiniment, c'est qu'il arrive à faire tenir dans Ragtime des histoires tellement variées, des points de vue tellement opposés, divers, des digressions, et qui tous font sens, et qui font sens pour un motif musical qui se répète. Enfin, trois, c'est ce couple qui danse le tango au début et à la fin. Cette image de Houdini qui ne cesse de se libérer de ses liens, et ça fait les liens pour un homme qui s'enfuit des pays communistes, bien sûr, ça fait penser à c'est une image qui lui parle. Et ce plan sur la corde qui relie la petite fille à son père. Et tout d'un coup, avec cette troisième image qu'il ajoute, cette image de la corde, de la chaîne, du lien, de ces liens que l'Amérique ne cesse de défaire et ne cesse de recréer, de ces liens qui sont pour le pire, les chaînes de l'esclavage, pour le meilleur, cette ficelle qui relie la petite fille et le père qui a peur de la prendre, je trouve qu'il y a un art musical et un art musical jazz dans l'improvisation de formes qui arrive à faire tenir une unité avec des éléments disparates.
Pour terminer, on pourrait dire que un peu l'œuvre de Colombe, enfin c'est un cliché, mais il a aussi compris que pour tenir en haleine le spectateur, il n'y avait rien de tel que le conflit. Et je pense que c'est une leçon dramatique du cinéma américain en général, mais que
il n'est pas le premier à penser ça. Hein.
Il n'est pas le premier, c'est ce que je dis. C'est presque un
Aristote
cliché,
déjà,
mais en même temps, ce qui me frappe dans son cinéma, c'est que pratiquement il y a conflit entre le père et le fils dans L'As de Pique. Il y a conflit toujours, conflit les pompiers, il y a conflit dans Amadeus, il y a conflit dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a conflit partout, tout le temps.
Il y a conflit et pas forcément victoire ou défaite. C'est-à-dire, c'est un moment d'un conflit, souvent, qui a commencé avant et qui va se poursuivre après.
Et puis surtout, moi je dirais que le conflit en général dans le cinéma commercial très grand public, c'est conflit entre les bons et les méchants. Et je pense que l'une des forces du cinéma de Forman, c'est qu'il ne tranche pas. C'est-à-dire, il peut avoir son avis sur les comportements des gens, mais j'ai l'impression que même ces personnages les plus condamnables dans leurs actions, il les aime. C'est pas qu'il les justifie, mais il les comprend.
Je lui avais dit une fois, on parlait justement de ce... On parlait, ils ont toujours de beaucoup de choses, que ce qui est intéressant, c'est un conflit entre les bons et les meilleurs.
Arnaud Desplechin.
Je compte m'en servir, ça c'est bien. Un conflit entre les bons et les meilleurs.
Le conflit.
Oui, mais je suis assez proche. Il y a pas de bons et de méchants. Ça me frappe avec dans Ragtime, le personnage, le pompier raciste qui a été chié dans la voiture et qui a détruit la voiture. Quand on le voit ramener, tout d'un coup, il se cache sous le lit. Il est terrifié. On le ramène comme s'il était, et puis il est tout rouge comme ça. Il a le tempérament sanguin. Il dit, mais vous avez pas me laissé tomber maintenant. Et on ne peut plus le juger. On peut pas juger le James Cagney qui fait finalement tuer Culhouse Junior dehors. De quel côté le bien ou le mal, on ne sait pas. Il y a juste ces motifs qui dansent de comment abandonner ses chaînes et comment pourtant on s'accroche à ses chaînes. Et voilà, et ça danse dans tous les sens. Donc c'est des conflits, mais jamais, c'est jamais moralisant, quoi. C'est ça qui rend ces conflits très dynamiques.
Mais même l'inquisiteur, au dernier moment.
La même chose. On s'est bien gardé de condamner aussi bien l'agent de la Révolution que l'inquisiteur. On les observe, on les décrit, ils vont au bout d'eux-mêmes, mais ils restent eux-mêmes, c'est pas, et puis pas question de choisir l'un des deux.
Mais ça, ce qui est magnifique dans Larry Flint et dans Man on the Moon, c'est cette façon qu'il a, et là il y a une ascension de son cinéma et jusqu'à Goya, c'est que le personnage soit le plus lui-même, que le film soit le trajet et que le personnage s'enflamme de plus en plus au cours du film et qu'il persiste dans ce qu'il est, quoi. Et ça de montrer à
Man on the Moon est un film qui me laisse vraiment perplexe, car j'adore ça, il est à plusieurs dimensions par moment.
Il est mystérieux, le personnage est mystérieux et impénétrable. Merci beaucoup.
On ne sait jamais à quel niveau on est.
Merci beaucoup Jean-Claude Carrière, Arnaud Desplechin, Ntebine. Donc je rappelle que le festival Premier Plan d'Angers se terminera le 31 janvier avec une intégrale Miloš Forman, entre autres, et chaque film sera présenté par quelqu'un. Donc en particulier, vous allez présenter Arnaud Desplechin des films de Miloš Forman. Je rappelle que Carlotta a sorti une très belle édition de Taking Off avec beaucoup de suppléments, dont un témoignage de Jean-Claude Carrière, dont on peut lire encore, j'espère qu'il est disponible chez Plomb, Les années d'Utopie, New York, Paris, Prague, New York. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, c'est un film de Frédéric Socher, Je veux être actrice. Frédéric Socher, on le connaît, c'est un auteur de films, bien sûr, c'est un enseignant, c'est un auteur de livres, on a eu plusieurs fois l'occasion de le recevoir ici, il a réalisé déjà 3 longs métrages, Regarde-moi, Cinéaste à tout prix et Hitler à Hollywood. C'est toujours des films un peu entre le documentaire et la fiction, et là, il s'agit d'un documentaire, mais en même temps, c'est aussi les fantasmes de votre fille, Frédéric Socher, puisque c'est un film de famille, mais qui dépasse vraiment une histoire familiale, puisque on voit 3 générations de Socher, votre père, qui est un philosophe reconnu, qui aurait voulu être acteur lui aussi, mais c'est pas lui qui est... c'est j'ai voulu être actrice et donc pas lui, sinon j'aurais voulu être acteur. C'est votre propre fille, donc Nastassia, qui veut être actrice. Et puis vous-même, qui intervenez dans votre film. Et enfin, votre petite fille de 10 ans, qui explique qu'elle voudrait absolument être actrice. Et moi, j'ai aussi une petite fille récemment qui m'a dit que je voulais être actrice. Mais je lui ai dit, tu verras le film de Frédéric Socher. Alors, comment vous est venue cette idée ?
Mais depuis très tôt, ma fille, depuis qu'elle a l'âge de 6 ans, a voulu suivre des cours de théâtre, parce qu'elle a été au théâtre avec sa maman et moi-même. Elle était fascinée par l'univers du théâtre. Elle a demandé si on pouvait suivre des cours. Elle était à Paris pendant 2 ans, elle a suivi les cours Florent, parce qu'il y a des cours Florent qui sont ouverts aux enfants. Elle continue à suivre des cours maintenant à Bruxelles, à l'Académie de Bruxelles. Et elle est passionnée par le théâtre, parce que ça permet de s'exprimer, de vaincre sa timidité. Elle est très timide dans la vie, paradoxalement. D'avoir une expérience de groupe, d'avoir un rapport au texte, et elle m'a demandé si je pouvais pas lui présenter des acteurs avec qui j'avais déjà tourné dans d'autres films, qui pourraient lui donner des petits secrets sur leur passion, sur ce que c'est être acteur, sur comment construire un personnage. Et donc j'ai contacté une série d'acteurs qui avaient tourné dans mes films, Jacques Weber, Patrick Chenet, Micheline Prel, ou des acteurs avec qui je rêvais de tourner, comme Denis Podalydès ou François Morel. Et tous, ou Michael Lonzal, avec qui j'avais commencé à 18 ans d'ailleurs, des courts-métrages, et tous ont accepté d'être présents dans le film et de transmettre. C'est un film sur la transmission, en fait. Vous parliez du cadre familial, évidemment, on transmet de par sa famille, mais c'est aussi une transmission d'acteurs, de grands acteurs de théâtre et de cinéma, qui acceptent de parler à une enfant de 10 ans de leur métier, de pourquoi ils font ça, de ce qu'ils ont envie de dire sur ce que c'est être acteur.
Alors, votre fille est d'un naturel et d'une essence formidable, mais c'est Cocteau qui disait que tous les enfants ont du talent, sauf Minou Drouet, qui était un enfant qui faisait de la poésie dans les années 50, dont on parlait beaucoup. Et oui, tous les enfants ont du talent, sauf Minou Drouet. C'est vrai que les enfants ont un talent singulier, naturel, mais elle n'était pas intimidée par toutes ces grandes personnalités qu'elle rencontrait.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait certaines d'entre elles, comme Patrick Chenet ou Micheline Prel, qu'elle connaissait déjà, ils étaient déjà venus manger à la maison. D'ailleurs, il y a un repas familial qu'on fait chez Patrick Chenet, avec toute la famille autour de Patrick Chenet, c'est-à-dire Josiane Stoléru, sa femme qui est comédienne, qui joue actuellement dans une pièce de théâtre, Le Mensonge, avec Pierre Arditi, ou sa fille, Émilie Chenet. La troupe familiale. Micheline Prel était venue à Bruxelles chez nous, donc elle les connaissait, donc elle était moins intimidée que si elle les rencontrait pour la première fois. Mais aussi parce que je pense qu'elle a un vrai intérêt pour ce que c'est être acteur, elle était très attentive. Et c'est Philippe Torreton qui dit, je pense qu'il a raison, qu'une des premières qualités chez un acteur, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Et je pense qu'elle était vraiment à l'écoute de ce qu'on lui disait, et que c'est pour cela aussi que cet échange a pu se produire. Parce que quand on donne quelque chose, quand on transmet, on a envie que la personne qui reçoit cette transmission, on sente son désir. Et je pense qu'elle a vraiment ce désir, et que ça passe, je l'espère, dans le film. Et en tout cas, dans la vie, c'est une réalité.
Alors il y a un moment formidable aussi, c'est vous avez la chance d'avoir 2 comédiens qui ont chacun joué Cyrano. Il y a Jacques Weber et Denis Podalydès qui expliquent à votre fille ce personnage de Rostand.
Ils sont même 3, puisque Denis Podalydès l'a mis en scène, Philippe Torreton et Jacques Weber l'ont joué. Et donc c'était dès le départ aussi, Jacques Weber a accepté, c'est assez drôle, de refaire la fin de Cyrano avec ma fille qui joue Roxane, c'est un peu particulier, une Roxane de 10 ans, elle a juste une réplique, mais ils sont tous les deux sur scène, et donc on voit le théâtre derrière, un très beau théâtre, le théâtre de l'atelier, et donc il y a cette idée de l'échange aussi par le jeu. Comment on est à la fois soi-même et un autre quand on compose un personnage, et tous ont accepté d'être avec elle dans cette démarche.
Et Micheline Prel, alors que vous aviez distribué dans Hitler à Hollywood.
Alors Micheline Prel, c'est un peu... Je lui ai dit, j'espère que vous ne vous en offusquez pas, Micheline, elle m'a dit pas du tout. C'est un peu ma grand-mère de cinéma. C'est quelqu'un que je vénérais quand j'étais adolescent. Et donc, j'ai eu la chance de tourner avec elle, effectivement, un film.
Quand vous étiez un blé en herbe.
Voilà. Et je venais à Paris, adolescent, je rêvais de la rencontrer. Et puis, finalement, on a fait un film ensemble, ce qui est une grande chance. Et elle a accepté, donc, d'être aussi présente dans le film et de parler de la grâce. C'est quoi la grâce? C'est quoi le charisme? La magie du noir et blanc aussi? Comment on peut sublimer quand on est acteur ou être sublimé par un cinéaste? Et donc, il y a cette sorte de passage de flambeau aussi qui existe entre générations. Et là, avec Micheline Prel, évidemment, qui accepte d'être dans le film et qui fait aussi, c'est assez rigolo, une partie de Scrabble avec François Morel, parce que dans la vraie vie, ils jouent souvent au Scrabble tous les deux. Et la partie de Scrabble dévie sur c'est quoi trouver des mots pour un acteur. Et François Morel, du coup, va réciter un texte de mémoire. C'est un appel à l'imaginaire, puisque il dit d'ailleurs, un acteur, il ne dit pas que des mots, il y a aussi ce qu'il y a entre les mots, l'interprétation de ce qu'il dit. Et c'est ça qui est le plus important.
Alors, il y a aussi des moments très, très savoureux. Par exemple, comme ce déjeuner avec la famille Chenet, où il y a sa femme, ses filles, etc.
Oui, donc là, c'est assez amusant, parce que vous disiez tout à l'heure que j'adore le mélange entre documentaire et fiction. Je veux être actrice, c'est un documentaire, mais il y a des parts de fiction aussi. Ou plus exactement, on essaye de provoquer le réel. Donc, il y a des situations, parce que chaque fois, il y a un décor différent. Donc, on avait pensé à des situations pour provoquer quelque chose se passe. Et donc, il y a un récit, il y a une histoire. Je pense que même un documentaire, d'ailleurs, raconte une histoire. Et on a beaucoup travaillé avec Min Tan, la monteuse, pour trouver une manière ludique aussi. J'espère surtout qu'on sourit parfois dans ce qui se passe. Et donc, c'est une sorte de roman d'apprentissage d'une jeune fille. Est-ce qu'elle va devenir comédienne ou pas? Et quels vont être les secrets qui vont lui être transmis?
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai appris, par exemple, c'est pas dans votre film, mais j'ai appris que le cours Florent, maintenant, donne des cours pour enfants à partir de 7 ans. Enfin, ce fameux cours Florent qui a formé tant de comédiens.
Oui, alors là, c'est ce qui, moi, je pense qu'il faudrait généraliser d'ailleurs les cours de théâtre de manière beaucoup plus forte dans les écoles primaires, dans les collèges. Pas pour que tout le monde devienne acteur, bien évidemment, mais je pense que c'est une expérience de vie formidable de pouvoir justement monter sur scène, de pouvoir donner la réplique à d'autres personnes de son âge, de pouvoir vaincre sa timidité. Ce serait une forme de pédagogie du plaisir du texte et du plaisir de se dépasser soi-même qui devrait, à mon sens, être généralisé.
Et Michel Lansdale, alors on oublie parce que c'est lui qui parle de l'invisible, parce que Lansdale, on le sait, est très, très porté sur la religion, sur la spiritualité.
Mais je pense qu'il y a un côté qui peut être mystique ou spirituel sans forcément être religieux. Alors, dans le cas de Michael Lansdale, lui, il est croyant, mais on peut l'être aussi mystique ou avoir un sens de la religiosité sans l'être croyant. Et ça revient à la question de la grâce. Il dit « les artistes sont les témoins de l'invisible ». Les artistes arrivent à transmettre quelque chose qu'on ne voit pas. Et je trouve que c'est magnifique, la relation qu'il a avec Nastasia. On l'a fait dans une église, donc chaque fois un lieu choisi. Donc là, évidemment, pour lui, c'était ce côté mystique qui était mis en avant. Et il parle de la gestuelle de l'acteur aussi. Comment il faut observer comment les gens fonctionnent dans la vie. Et après, pouvoir recomposer comme comédien un personnage. Par exemple, en voyant comment les gens bougent les mains, comment ils se meuvent. Et donc, la gestuelle aussi est quelque chose de très important pour lui.
Comment Nastasia... Socher s'est trouvée comme actrice pour ses débuts à l'écran?
Écoutez, j'avais très peur, parce que quand on est cinéaste, on a toujours peur de comment le film va être reçu par la critique, par le public. Je pense pas du tout aux réalisateurs qui disent qu'ils disent pas les critiques, par exemple. Mais ma plus grande peur, là c'était particulier sur ce film, c'est comment il serait reçu par ma fille. De ce point de vue, c'est réussi, puisqu'elle a assisté à l'avant-première du film sur grand écran, et elle m'a juste glissé à l'oreille « Merci papa ». Donc j'étais un cinéaste et un père heureux.
Alors merci Frédéric Socher. Je voudrais tout de même, alors votre film est sur les écrans depuis mercredi dernier, donc on peut le voir et c'est une expérience assez rare. Et puis je signale tout de même, parce que vous êtes aussi enseignant à Paris 1 et vous organisez un cycle cinéma à la BNF, donc François Mitterrand, avec notre ami Ndebine, du mois du début février à fin mars, où vous allez une série de rencontres absolument passionnantes, certainement, de Arnaud Desplechin, Jacques Audiard, Patrice Lecomte, etc. Enfin, un nombre très grand de grands cinéastes français contemporains, avec leurs monteurs, c'est-à-dire des dialogues cinéastes-monteurs, donc à la BNF. Sur le site de la BNF, tout le monde pourra voir le programme.
Je souhaite aussi remercier Bine, d'ailleurs j'en profite, parce que c'était le premier spectateur du film, il est venu à la salle de montage, puisqu'on parle de montage. Et c'est quelque chose de très important d'avoir un regard critique sur le montage aussi.
Merci beaucoup. Donc c'était Projection Privée, une émission de Michel Simon, à la réalisation Olivier Bétard. La prise de son était de Jean-Louis Deloncle.
Sylvia Favre l'a préparée. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre.